Bonjour, ici Marc, bienvenue au 17e épisode du Bonheur pour tous, le podcast pour réapprendre le bonheur. Pourquoi est-ce que je dis réapprendre? Parce que je suis persuadé que chacun de nous vient au monde prêt pour être heureux, et que si on reprend contact avec ce naturel qu'on a appris à oublier mais qui est encore en nous, alors on peut retrouver le bonheur, parce que notre nature c'est de vivre heureux. Donc ici mon but est de partager avec vous les meilleures informations que j'ai trouvées pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, je vous ai préparé le 17e chapitre du livre audio « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. C'est un livre audio en anglais que je suis en train de traduire en français, parce que parmi tout ce que j'ai lu ou entendu dans ma vie, c'est ce que dit Marshall qui me paraît le plus important à savoir pour être heureux. Chapitre 17. Établir une relation empathique. Jusqu'ici, on a parlé de comment exprimer sincèrement ce qui est vivant en nous et ce qui nous rendrait la vie plus merveilleuse. Je voudrais maintenant qu'on se tourne vers comment entrer en relation de manière empathique avec ce qui est vivant chez les autres et ce qui rendrait la vie plus merveilleuse pour eux. Ce que je veux dire par empathie, c'est une qualité très spéciale de compréhension. C'est pas seulement comprendre intellectuellement ce que l'autre personne dit, c'est bien plus fort et bien plus précieux que ça. Carl Rogers décrit l'impact de l'empathie sur ceux qui la reçoivent. Il dit ça comme ça. Quand quelqu'un vous entend vraiment, sans juger ce que vous dites, sans chercher à être responsable pour vous, sans chercher à vous changer, eh bien ça fait un foutu bien. Quand j'ai été écouté et que j'ai été entendu, je peux repercevoir mon univers d'une nouvelle façon et aller de l'avant. C'est incroyable comment des choses qui semblaient impossibles à résoudre deviennent possibles à résoudre quand quelqu'un écoute. Comment des nœuds confus qui semblaient sans espoir se transforment en brins relativement démêlés quand on est entendu. Rogers parle ici de compréhension empathique, pas seulement de compréhension intellectuelle. Une de mes anecdotes favorites à propos de comprendre avec empathie me vient de la directrice d'une école. Elle rentrait de déjeuner un jour quand elle a trouvé Millie, une élève de primaire, assise l'air déprimée, en train de l'attendre dans son bureau. Elle s'assit à côté de Millie, qui commença. « Madame Anderson, vous avez déjà eu une semaine où tout ce que vous faites fait de la peine à quelqu'un, alors que vous n'avez jamais voulu blesser qui que ce soit ?»« Oui, » répondit la directrice, « je pense que je comprends. » Et sur ce, Millie continua en racontant sa semaine. Pendant ce temps-là, me raconta la directrice, j'étais déjà bien en retard pour une réunion très importante, j'avais encore mon manteau sur moi et j'étais anxieuse de ne pas faire attendre une salle pleine de monde. Et donc j'ai demandé, Millie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Millie se pencha vers moi, mit ses mains sur mes épaules, me regarda droit dans les yeux et dit d'une manière très assurée, Madame Anderson, je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit, je veux juste que vous m'écoutiez. » La directrice me dit que ce moment a été pour elle un de ceux où elle a appris une des choses les plus significatives de sa vie, et que cette chose lui a été enseignée par un enfant. La salle pleine d'adultes qui l'attendaient ne comptait plus. Avec Millie, elles allèrent s'asseoir sur un banc où elles pouvaient être un peu à l'écart. L'enfant appuya sa tête contre elle pendant que la directrice l'entourait de ses bras, et elle écouta jusqu'à ce que l'enfant ait fini, et elle a été présente avec elle de manière empathique. Un des aspects les plus satisfaisants de mon travail est d'entendre comment les gens ont utilisé la communication non violente pour renforcer leur aptitude à se connecter de manière empathique avec les autres. Mon amie Laurence, qui habite en Suisse, a décrit comment elle avait été fâchée quand son fils de 6 ans a quitté la pièce en colère pendant qu'elle était encore en train de lui parler. Isabelle, sa fille de 10 ans qui l'avait récemment accompagnée à un stage de communication non violente, dit « Tu es vraiment fâchée, maman. Tu voudrais qu'il parle quand il est en colère et qu'il ne s'en aille pas comme ça ?» Laurence fut impressionnée par la façon dont, en entendant les mots d'Isabelle, elle avait immédiatement senti la tension en elle baisser et comment, ensuite, elle avait été plus capable de compréhension envers son fils lorsqu'il est revenu. Un professeur d'université a décrit comment les relations entre les élèves et les enseignants avaient changé lorsque plusieurs collègues ont appris à écouter avec empathie et à s'exprimer avec plus de sincérité et de vulnérabilité. Le professeur me dit « Les élèves se sont ouverts de plus en plus et nous ont parlé de divers problèmes personnels qui gênaient leurs études. Plus ils en parlaient, plus il leur était possible d'avancer dans leur travail. Bien que ce genre d'écoute occupe beaucoup de notre temps, nous étions heureux de l'utiliser de cette façon. Malheureusement, le directeur se fâcha, il nous a dit que nous n'étions pas des psychologues et que nous devrions passer plus de temps à enseigner et moins de temps à parler avec les élèves. Lorsque j'ai demandé comment les enseignants avaient réagi, le professeur répondit « Nous avons empathisé avec les inquiétudes du directeur. Nous avons entendu qu'il était soucieux et qu'il voulait s'assurer que nous ne nous mêlions pas de choses que nous ne pourrions pas gérer correctement. Nous avons aussi entendu qu'il avait besoin d'être rassuré que le temps que l'on passait à parler ne nuisait pas à nos responsabilités éducatives. Il a semblé soulagé par la façon dont on l'a écouté. On a continué à parler avec les élèves parce qu'on pouvait voir que plus on les écoutait, plus ils réussissaient dans leurs études. Lorsqu'on travaille dans une institution à structure hiérarchique, il y a une tendance à entendre des ordres et des jugements de la part de ceux qui sont plus hauts dans la hiérarchie. Alors qu'il peut nous être facile d'avoir de l'empathie avec ceux qui occupent des positions avec moins de puissance, on peut se retrouver en train de se défendre ou bien de s'excuser, au lieu de faire preuve d'empathie, en présence de ceux qu'on identifie comme nos supérieurs. C'est pourquoi j'ai particulièrement apprécié que ces professeurs se soient souvenus d'empathiser avec leurs directeurs aussi bien qu'avec leurs élèves. Parce qu'elle nous incite à révéler nos ressentis et nos besoins les plus profonds, il se peut qu'on trouve parfois très intimidant de s'exprimer en utilisant la communication non violente. S'exprimer devient plus facile cependant après que l'on ait empathisé avec les autres, parce qu'alors on a touché leur humanité et on a réalisé qu'on partage les mêmes qualités. Plus on se connecte avec les ressentis et les besoins derrière les mots des autres, plus la peur de s'ouvrir à eux diminue. Les situations où on éprouve le plus de réticence à exprimer notre vulnérabilité sont celles où on veut préserver une image forte, par peur de perdre notre autorité ou notre contrôle. Une fois, j'ai montré ma vulnérabilité aux membres d'un gang de rue de Cleveland, en admettant la douleur que je ressentais et mon désir d'être traité avec plus de respect. « Oh, regardez !» dit l'un d'entre eux. « Il se sent blessé, comme c'est dommage !» Et tous ses amis se mirent à rire avec lui. « Eh bien, j'aurais pu interpréter cela comme profiter de ma vulnérabilité pour m'attaquer. Ça aurait été une option. Une autre option aurait été de leur reprocher d'une manière ou d'une autre leur façon de répondre. Ou bien je pouvais empathiser avec les ressentis et les besoins derrière leur comportement. Cependant, si j'avais l'image à l'esprit qu'on m'humilie et qu'on abuse de moi, il était possible que je sois trop blessé ou fâché ou effrayé pour être capable de faire preuve d'empathie. À un moment comme celui-là, il me faudrait me retirer physiquement pour m'offrir de l'empathie moi-même ou bien en demander à quelqu'un de fiable. Après que j'ai découvert les besoins qui sont si fortement provoqués en moi et que je me sois apporté moi-même l'empathie nécessaire à ces besoins, je peux d'habitude ensuite être prêt à retourner vers les autres et empathiser avec eux. En écoutant attentivement la remarque de ce membre du gang, « Oh, regardez, il se sent blessé, comme c'est dommage !» et les rires qui ont suivi, j'ai senti que ses amis et lui étaient contrariés et qu'ils ne voulaient pas être culpabilisés ou manipulés. Peut-être qu'ils réagissaient à des gens qui dans le passé ont utilisé des phrases comme « ça me blesse » pour communiquer indirectement de la désapprobation. Puisque je n'ai pas confirmé ça avec eux, je n'ai aucun moyen de savoir si j'avais deviné juste. Mais simplement en concentrant mon attention sur ceci, j'ai évité de me sentir visé ou bien de me mettre en colère. Au lieu de les juger en train de me ridiculiser ou de me manquer de respect, je me suis concentré sur écouter la douleur et les besoins derrière leur comportement. « Hé !» s'exclama l'un d'eux, « c'est des conneries ce que vous nous racontez là. Et s'il y a des gars d'un autre gang et qu'ils ont des flingues et pas vous, et vous dites juste de rester là et de leur parler, n'importe quoi !» Et tout le monde est reparti à rire, et une nouvelle fois, j'ai dirigé mon attention sur ce que pouvaient être leurs ressentis et leurs besoins. Et j'ai dit « Donc vous en avez vraiment marre, vous voulez apprendre quelque chose qui vous soit utile dans votre situation ?»« Ouais, » dit l'un d'entre eux, « et si vous viviez ici, vous sauriez que ce que vous racontez c'est des conneries. » Et je répondis encore une fois de manière empathique « Donc vous avez besoin d'être sûr que ce que quelqu'un vous propose va vraiment être adapté. » Alors vous voulez travailler avec des gens qui comprennent votre situation. L'élève dit « Bah ouais, il y a certains de ces gars-là qui vous dégommeraient avant que vous ayez sorti deux mots. » Et j'ai dit, alors vous voulez qu'on comprenne à quel danger vous êtes confronté dans votre environnement? J'ai continué à écouter de cette manière, parfois en disant à voix haute ce que j'entendais et parfois pas. Notre conversation dura environ 45 minutes. Il y eut un grand réajustement dans l'énergie entre nous. Ils sentirent que je les comprenais vraiment. Un accompagnateur, qui faisait partie du programme, remarqua ce changement et leur demanda « Qu'est-ce que vous pensez de ce gars ?» Le jeune homme qui m'avait donné le plus de fil à retordre répondit « C'est le meilleur intervenant qui nous ait jamais parlé. » Ébahi, l'accompagnateur se tourna vers moi et chuchota « Mais vous n'avez rien dit ?» Non, en fait, je ne leur avais pas encore parlé de communication non violente, mais en la vivant et en écoutant de manière empathique ce que les élèves disaient, je leur montrais que, quels que soient les mots qu'ils me lançaient, j'étais intéressé à entendre lesquels de leurs besoins se trouvaient derrière. Lorsqu'ils voyaient cela, ils vivaient l'expérience de la communication non violente, et ça a été très fort pour eux. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, ce qui me fera aussi plaisir, laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. Dans le prochain épisode, on continuera avec le 18e chapitre de la communication non violente. À bientôt !